Chapitre 13. Le duc n'était pas venu de son plein gré s'installer à la Varenne. Il ne pouvait supporter la campagne. Parisien dans l'âme, les platanes des boulevards et les marronniers des Champs-Élysées lui semblaient une verdure très suffisante. Son cercle, où il passait ses après-midi et la plupart de ses soirées, formait le fond de sa vie. Il n'était en aucune façon contemplatif et détestait la lecture. Lorsque son beau-père le conduisit avec orgueil dans la serre de la Varenne et lui montra une superbe collection d'orchidées que son jardinier, un homme auquel Moulinet parlait avec déférence, avait commencé à grands frais, le duc jeta un regard distrait sur les pots symétriquement rangés, murmura un « très joli, indifférent ». Puis, du bout des doigts, détachant de sa tige une fleur merveilleuse, il la passa à sa boutonnière. Le jardinier fut saisi en voyant prendre avec un pareil sans-façon une fleur dont la création lui avait coûté beaucoup d'argent et de peine. Il laissa échapper un bout de bégonia qu'il s'apprêtait à montrer, et, lançant à Moulinet un regard sévère, il sortit en silence. « Vous savez que c'est une fleur de 15 louis que vous venez de cueillir ?» dit en souriant l'ancien juge au tribunal de commerce. « Ah ! » dit le duc avec tranquillité. « Eh bien ? » Mais je ne la trouve pas trop chère pour moi. » Moulinet regarda son gendre de travers, mais il n'osa rien dire. Au fond, il le craignait. Le duc avait une façon de le toiser qui lui imposait. Il l'avait dit un soir au joli maître Escandre. « Nous aurons beau faire, nous ne serons jamais les égaux de ces gens-là. » Et quoi qu'il eût, surtout depuis ses visées électorales, des tendances égalitaires, il ne se sentait pas de plein pied avec le duc. Ayant peu réussi avec ses serres, il espéra faire plus d'effet avec ses écuries. Il avait réuni là une douzaine de chevaux de selle et d'attelage dont son cocher lui avait dit grand bien et qu'il avait payés en conséquence. Les communs de la Varenne sont grandioses. Ils ont été construits en briques dans un style mauresque qui plut énormément à l'ancien juge au tribunal de commerce. Quand il en parle, il dit volontiers « Cela ressemble beaucoup à l'Alhambra et au nouveau collège Chaptal ». La cour, de 200 mètres de largeur, est entourée sur ses quatre faces par les bâtiments affectés aux écuries, aux remises, à la sellerie et aux approvisionnements de fourrage. Une porte monumentale, surmontée de deux piliers en pierre, ornée de têtes de chevaux en bronze, donne accès dans la cour. Des arcades courent tout le long des bâtiments, formant un promenoir d'allées large de 3 mètres. Des barrières de bois peints en blanc séparent chaque arcade et permettent de s'appuyer pour voir manœuvrer les chevaux. La duchesse, en robe de foulard, sa jolie tête brune entourée d'un col de point de Venise, maniant, d'une main chargée de bagues, une large ombrelle rouge, accompagna son père et son mari aux écuries. Elle foula de son petit soulier la bordure de paille soigneusement tressée des litières, regardant chaque cheval en liberté dans son box, au haut duquel une plaque était préparée pour le nom. L'aménagement des écuries obtint les suffrages du duc, mais les chevaux le laissèrent froid. Le premier cocher quêta vainement des compliments. Le duc trouva d'un coup d'œil le défaut de chaque bête et donna fortement à réfléchir à M. Moulinet. Le soir, il y eut une explication sérieuse, de laquelle il résulta, pour le cocher, que le gendre de M. Moulinet s'y connaissait trop bien pour qu'il fût désormais possible de faire payer 6 000 francs des chevaux qui n'en valaient pas plus de 1 800. Le duc résuma son opinion d'une façon qui acheva de lui conquérir l'estime de l'homme d'écurie. « Volez votre maître, mon brave, dit-il, c'est tout naturel, mais ne l'enrossez pas. » Ayant fait visiter au duc ses serres et ses écuries sans plus de succès pour les unes que pour les autres, l'ancien juge au tribunal de commerce se trouva au bout des distractions qu'il réservait à son gendre. Celui-ci, entre sa femme et M. Moulinet, s'ennuya d'une façon supérieure. La solitude lui devint précieuse, et il s'enferma chaque jour, après le déjeuner, dans le fumoir. Là, étendu sur le large divan de cuir à vannes, il dormit à poing fermé. Au bout d'une semaine de cette existence, ne pouvant plus y tenir, sentant les impertinences se presser bourdonnantes et irritées sur ses lèvres, le duc allait annoncer à sa femme et à son beau-père qu'une affaire pressante l'appelait à Trouville, quand Athénaïs offrit d'aller faire une visite à Pont-Aven. Cette proposition surprit le duc, et au premier abord, elle lui fut désagréable. Le souvenir de Claire s'était peu à peu effacé de son cœur, mais celui du maître de forge y était resté fort net. La femme lui était devenue à peu près indifférente, mais il avait gardé rancune au mari. De quoi il eût été bien embarrassé de le dire. Peut-être de ce qu'il avait été complice de l'affront que Claire lui avait fait subir publiquement. Peut-être de ce qu'il était tout l'opposé de sa propre nature. Enfin, il était instinctivement hostile à celui qu'il continuait à appeler le forgeron. Il fut cependant curieux de voir comment avait tourné ce mariage conclu dans des conditions si bizarres. Et il accompagna son beau-père et sa femme chez M. d'Herblay sans se faire trop tirer l'oreille. Il se disait à part lui « Mon voyage n'en sera retardé que d'un jour, et je puis témoigner quelques égards à cette pauvre Claire. Je lui dois bien cela. » Il la plaignait et s'était fait de la vie de celle qu'il aurait dû épouser une idée très singulière. Il se la figurait étroite et mesquine, occupée exclusivement par le souci des affaires. Pour un peu, il se fût imaginé sa fière cousine tenant les livres de son mari avec des manchettes en percaline noire au bout des bras. Il n'avait vu Pont-Aven que le soir dans l'obscurité. Il fut étonné, en entrant en plein jour dans une belle cour d'honneur, ornée d'un élégant parterre à la française, de l'aspect grandiose et sévère du château. Les domestiques lui parurent bien stylés et ne sentant pas du tout la province. Les salons se montrèrent à lui dans toute leur luxueuse splendeur, et il fut forcé de s'avouer à lui-même que le train de la maison de M. d'Herblay était des plus enviables. L'apparition de Claire le troubla. Ce n'était plus elle. La femme qu'il avait devant les yeux n'était pas plus belle que celle qu'il avait connue. Elle était autre. Simple, grave, avec une autorité dans le regard qui le gêna. M. d'Herblay était trop bien pour ne pas déplaire considérablement au duc. Pour la première fois, celui-ci s'aperçut que le maître de forge était décoré. Plongé dans de soudaines réflexions, Bligny parla peu, avec à propos, et dû à cette réserve de ne pas éveiller, dès le premier jour, les soupçons de Philippe. Pendant le trajet de Pont-Aven à la Varenne, le duc se montra taciturne. À dîner, il fut trop gai, parlant avec une abondance fébrile, plaisantant M. Moulinet et se montrant le meilleur fils du monde. Son apathie avait brusquement cessé. Il ne songea plus le lendemain à parler de la fameuse affaire pressante qu'il appelait à Trouville. Mais il s'enferma plus que jamais dans le fumoir. Seulement, il n'y dormit pas. Étendu sur le divan, il fuma une partie de la journée, ses cigarettes du levant qui poussent à la rêverie. Il regardait monter lentement vers le plafond les spirales bleues, semblant poursuivre, au travers de leurs anneaux légers et flottants, une forme fugitive. Dans une demi-obscurité, le visage de Claire, tel qu'il venait de la voir, lui apparaissait. Il fermait les yeux et il la voyait toujours. Obsédé par cette vision, il voulut lui échapper par le mouvement. Il fit seller un de ses chevaux que M. Moulinet avait payé si cher et qui valait si peu d'argent. Et par le parc, il s'en alla, laissant flotter les rênes sur le cou de sa monture. Il était 4 heures et le bois commençait à s'emplir de bruits vagues. La course des lapins vagabonds faisait remuer les feuilles dans les taillis et, de temps à autre, une pie effrayée s'envolait du haut d'un grand chêne, poussant son cri strident et battant l'air de ses courtes ailes. La journée avait été brûlante. Une fraîcheur délicieuse descendait avec le soir. Des odeurs exquises sortaient de la terre et le soleil, s'abaissant vers le couchant, trouait de ses rayons d'or le feuillage de la futaie. Secouant son engourdissement, le duc fit sentir l'éperon à son cheval qui partit au galop. Sans s'en apercevoir, il était sorti du parc et maintenant il courait en pleine forêt. Toujours le fantôme charmant qui hantait son esprit fuyait devant lui, l'entraînant à sa suite. Son cheval l'avait conduit à la lisière de la plaine. Un grand mur bas, par lequel les branches alourdies se penchaient, attira son attention. Une large coupée, bordée par un profond seau de loup, s'ouvrait dans la masse épaisse des arbres. Le duc, machinalement, se dirigea de ce côté. Un large tapis de gazon se déroulait devant les yeux, et, tout au bout, une vaste construction blanche s'élevait. Le duc tressaillit. Il venait de reconnaître Pont-Aven. Ainsi, le hasard le ramenait vers celle qu'il s'efforçait de fuir. La fatalité voulait-elle donc réunir ceux qu'elle avait séparés? Bligny se prit à sourire. Il se rappela ce qu'il avait dit au baron le soir du mariage. Depuis Vulcain, les forgerons n'ont pas de chance. » Il oublia ce terrible marteau dont son interlocuteur l'avait menacé. D'ailleurs, était-ce la crainte qui pouvait empêcher le duc de chercher à satisfaire une de ses fantaisies ? Il remit son cheval au trot. Et, sa résolution étant prise désormais, l'esprit soulagé, il rentra à la Varenne. Rien ne pouvait être plus menaçant pour le repos de M. d'Herblay que les intentions nouvelles du duc. Prise entre la gravité froide de Philippe et la grâce câline de Gaston, la jeune femme devait être dans un grand embarras, sinon dans un sérieux danger. Il était évident que le maître de forge, en montrant au duc une si tranquille cordialité, avait une arrière-pensée. Rien n'eût été plus aisé pour lui que d'éloigner, peu à peu, les parents de sa femme et de restreindre les relations intimes qui s'établirent dès les premiers jours à de purs et simples rapports de bon voisinage. Philippe n'était pas facile à entamer et ce qu'il avait décidé s'exécutait habituellement de point en point. Si donc il se livrait ainsi à l'envahissante tendresse du duc et de la duchesse, c'est qu'il entrait dans ses projets de leur ouvrir sa maison toute grande. Pendant les longues heures que Philippe avait passées au pied du lit de Claire Mourante, il avait repris un à un tous les événements qui avaient précédé son mariage. Il s'était rendu compte de l'acharnement avec lequel Athénaïs avait poursuivi sa rivale. Il fit à la duchesse sa part de responsabilité. Et plus il la trouva coupable, plus il fut porté à excuser Claire. Cependant, il jugea nécessaire de ne pas se départir de la rigueur avec laquelle il avait jusqu'à ce jour traité sa femme. La lutte qu'il avait engagée avec elle devait se terminer par sa victoire à lui. Il fallait qu'il fît subir à l'orgueilleuse Claire une épreuve décisive et qu'il prît une revanche terrible de l'affront immérité qu'elle lui avait infligé. Il pressentit qu'Athénaïs était destinée à jouer son rôle dans cette dangereuse partie. La bataille devait se livrer entre la duchesse et Claire, entre le duc et lui. Il la prévit acharnée, pleine d'embûches perfides et de redoutables surprises. Il n'était pas impossible qu'elle se dénouât par la mort d'un homme. Philippe n'eut pas une hésitation. Après tout, qu'avait-il à perdre ? Sa vie était compromise et son bonheur perdu. Il ne pouvait que gagner à tenter l'aventure. Seulement, prudent autant qu'il était résolu, il voulut prendre ses précautions et faire tout pour s'assurer le succès. Trouvant Claire trop isolée, puisqu'en apparence il ne pouvait prendre sa défense, il pensa à lui donner une fidèle alliée. Il invita la baronne à venir avec son mari passer quelques semaines auprès d'eux. Les forces se trouvant ainsi équilibrées et les deux parties en présence, il n'y avait plus qu'à attendre l'engagement. Dès les premiers jours, il fut facile de voir que la duchesse de Bligny avait formé le projet de révolutionner ce petit coin paisible de la province. La Varenne devint un centre joyeux qui retentit sans cesse des éclats de la fête, par laquelle Athénaïs fut jalouse de signaler sa présence. Étant implantée depuis peu dans le pays, elle prétendit en devenir la souveraine incontestée à force de faste, d'entrain et d'excentricité. Elle avait fait venir de Paris deux de ses suivants, le gros Labrède et le petit du Tremblay, la paire de trotteurs la plus brillante de son fameux attelage à six. « Labrède et du Tremblay, avait-elle dit en riant, ça suffira pour la campagne. On les attellera en poste et avec beaucoup de grelots, ils feront illusion. » En effet, Labrède et du Tremblay, ces deux inséparables qui, assez ternes pris l'un sans l'autre et s'est surprenant une fois en groupe, les deux nullités se faisant valoir, de même que deux négations valent une affirmation, étaient arrivés avec un cotillon, un lot tennis et un polo dans leur bagage. Et comme si le diable de Paris était sorti de leur valise, à peine avaient-ils mis le pied à la Varenne que la vie y était devenue enragée. Besançon trouva un orchestre de 10 musiciens à fournir à la duchesse, car on dansa tous les samedis au château. La jeunesse jurassienne apprit avec stupeur que Madame de Bligny avait l'intention de divertir tout le pays. De tous les châteaux environnants, les berlines, les briscas, les charabancs, toute une carrosserie bizarre, dont certains modèles remontaient à la Restauration, se répandirent sur la route de la Varenne avec un bruit de ferraille. Les hobereaux, hauts en couleur, aux muscles durs comme les rochers de leur montagne, se mirent à lancer les balles du lot tennis, à pousser au galop sur les pelouses la boule du polo, en se donnant de grands coups de râteau sur la tête, et à valser des soirées entières avec une vigueur infatigable. « Dites donc, duchesse, ils sont d'un bon bois, vos provinciaux !» put s'écrier le gros Labrède. « Ils enlèvent leurs danseuses comme des plumes et ils ne se reposent jamais. J'ai presque envie, pour ma saison d'hiver à Paris, d'en importer quelques-uns. Ils nous corseraient nos cotillons, et je crois qu'ils feraient prime sur la place. » « Oui, mais voilà le malheur, dit le petit du Tremblay. Le provincial musculeux et sanguin réussit généralement mal chez nous. Au bout de 6 mois, il se décolore et devient beaucoup plus mou que le Parisien lui-même. Mauvaise espèce pour l'acclimatation. » Et pendant que les deux Parisiens se livraient à ces considérations profondes sur l'élevage des danseurs de province, les 10 musiciens faisaient rage dans les salons de la Varenne. La jeunesse de Besançon et des environs, insoucieuse des appréciations et dédaigneuse des critiques, dansait avec une conviction qui réjouissait le cœur de Moulinet. L'ancien juge au tribunal de commerce s'était épanoui en voyant sa fille remuer avec cette ardeur passionnée la haute société de son arrondissement. Le candidat se dit « Autant d'invités, autant d'électeurs ». Il poussa donc la duchesse dans cette voie en lui ouvrant des crédits illimités. Et pendant que les filles et les femmes dansaient, lui, il entreprit les pères et les maris. Moulinet eut cependant un souci. Ni le préfet, ni le général commandant la place de Besançon ne vinrent aux soirées de la Varenne. Peut-être le milieu parut-il trop aristocratique aux représentants de l'administration civile. Quant au chef de l'administration militaire, il venait d'être réprimandé pour avoir toléré que la garnison portât les armes à la procession. Il crut prudent de s'abstenir de montrer ses étoiles dans les salons de la duchesse. « Qu'est-ce que cela peut te faire que le préfet ne vienne pas ?» demanda Athénaïs à Moulinet, très inquiet. « Si tous ces administrés sont pour toi, fais-le empoigner par le courrier, qu'on raconte une histoire bête sur son compte. Tiens, veux-tu que je te fasse faire l'article par Labrède ? Ce sera drôle. Quant au général, c'est un zéro. Ses soldats ne votent pas. » Athénaïs avait un bien plus grave sujet de mécompte que son père. Madame d'Herblay s'était fait excuser de ne pas venir aux soirées du samedi. Elle se disait encore trop souffrante pour veiller. La duchesse, dont le seul but, en donnant ses fêtes, avait été de contraindre Claire à y assister, dévora difficilement sa rage. Elle eut des mouvements d'humeur qui troublèrent la gaieté de tout son entourage. Ne pas écraser sa rivale de tout son luxe, ne pas lui enfoncer 1000 poignards dans le cœur en se montrant à elle appuyée sur le bras de celui qu'elle avait dû épouser, ne pas la voir tressaillir chaque fois qu'on l'appelait Madame la Duchesse, c'était perdre tout le plaisir qu'elle se promettait. La haine de la jeune femme, qui eût peut-être été calmée par le spectacle de l'abaissement de Claire, par la révélation de ses tortures, fut au contraire exaspérée par la résistance que celle-ci sut opposer, par le calme hautain qui resplendit sur son front. Claire vint dîner une fois à la Varenne et son attitude fut composée avec une extrême habileté. La pétulante et envahissante duchesse, auprès de cette noble et élégante femme, parut ce qu'elle était en réalité. Une petite personne assez mal élevée, faisant et disant tout ce qui lui passait par la tête, avec une audace de parvenue millionnaire. On put faire la différence et tout l'avantage fut pour Claire. Athénaïs le sentit et elle se promit de terribles représailles. Cette jeune femme brune, au visage charmant, à l'œil vif et au sourire gracieux, était tout ce qu'on pouvait rêver de plus mauvais sur la terre. Elle eût été capable, n'eût été la grave responsabilité à encourir, de jeter du vitriol à la face de cette adorable Claire afin de la défigurer une bonne fois et de brûler sans remède possible les beaux yeux purs et tranquilles dans lesquels elle lisait tant de dédain. Ce qui irrita surtout la duchesse, ce fut le bon accord qui parut exister entre monsieur et madame d'Herblay. Le mari était prévenant, tendre et attentif. La femme était pleine de déférence et d'affection. Il n'y avait pas à se tromper au sourire de Claire quand Philippe était auprès d'elle et qu'il la protégeait de toute son autorité. Elle aimait. Et certainement, elle était aimée. Comment le maître de forge n'eût-il pas adoré une créature aussi parfaite, réunissant dans un ensemble exquis la grâce physique et la beauté morale? D'ailleurs, ne l'avait-il pas épousée par amour? Passant sur toutes les humiliantes étrangetés de la situation, acceptant une femme ruinée et abandonnée par le duc. et cela simplement, heureux de pouvoir la posséder, comme si vraiment elle eût été un rare trésor. Ainsi, il était dans la destinée de Claire d'être toujours aimée. Tandis que le sort avait décidé qu'Athénaïs laisserait les hommes indifférents. Sans doute, on l'a courtisée. Mais qu'était-ce que ces adulations, ces galanteries de salon, ces passagers caprices qu'elle inspirait, comparés à l'amour sincère, profond, inaltérable, que Claire avait le don de faire naître? Dans l'emportement de sa jalousie, Athénaïs s'occupa particulièrement de M. d'Herblay. Elle se fit sérieuse pour lui plaire et l'accapara pendant une partie de la soirée. Elle trouva réellement le maître de forge très bien. Avec son teint bronzé par le grand air, ses cheveux noirs coupés ras sur le front et ses grands yeux bruns, il ressemblait à un arabe. Athénaïs se sentit soudainement très troublée. Jamais aucun homme ne lui avait fait éprouver une telle émotion. Elle pensa que si jamais elle était capable de s'éprendre de quelqu'un, ce serait de Philippe. Et, enragée, à la pensée de la douleur qu'elle causerait à Claire, elle se laissa aller à sa coquetterie naturelle avec une verve qui la surprit elle-même. Elle éprouva aussitôt une joie diabolique en voyant Claire s'assombrir, s'agiter et suivre avec angoisse le manège auquel elle se livrait. Athénaïs lut la souffrance sur le front de celle qu'elle haïssait et dès lors elle comprit qu'elle venait de découvrir le défaut de la cuirasse par lequel il lui serait possible de frapper un coup mortel. À la vérité, l'attitude de Philippe avait été celle d'un homme bien élevé qui se voit l'objet des distinctions flatteuses d'une maîtresse de maison. Il accueillit avec une aisance parfaite les avances très accentuées de la duchesse. Il lui laissa prendre son bras pour parcourir les salons et causa avec grâce. Il fut juste assez empressé pour paraître très agréable et juste assez froid pour qu'on ne pût pas dire qu'il avait été avec la duchesse autrement qu'avec toutes les autres femmes. Cependant, si maître qu'il fût de lui, un observateur attentif eût pu découvrir qu'il était en proie à un trouble violent. Pendant que la duchesse, faisant la roue comme un jeune paon, s'était emparée de lui et lui montrait le salon, les serres, il avait vu Bligny s'approcher doucement de Claire, se pencher par-dessus le dossier du fauteuil et parler en souriant. C'était la première fois qu'il voyait Gaston et Claire l'un près de l'autre, échangeant leurs pensées sans témoin. Il frémit et une rougeur ardente monta à ses tempes. Pendant une minute, il souffrit si cruellement que son bras se crispa, serrant violemment la main de la duchesse. Celle-ci le regarda avec étonnement. Ils étaient dans une petite serre que Moulinet appelait les tropiques et dans laquelle se développaient, superbes au milieu d'une chaleur humide, les plantes vénéneuses de l'Inde et de l'Afrique. « Qu'avez-vous donc ?» demanda la duchesse en rendant au bras de son cavalier une légère pression. Et elle se mit à sourire. L'odeur violente de ces arbustes et la chaleur de la serre m'étourdissent, répondit le maître de forge reprenant son calme. Rentrons dans le salon si vous le voulez bien. Et, conduisant la duchesse à pas lents, il revint, tenant sous son regard le duc et Claire qui continuaient à causer. Depuis le dîner, le duc n'avait point paru. Il avait emmené ses convives dans le fumoir et les avait mis en face de la collection la plus variée de cigares et de cigarettes. Au bout d'une demi-heure, il avait prétexté ses devoirs de maître de maison et avait laissé les fumeurs au milieu d'un nuage épais. Il voulait se rapprocher de Claire, mais connaissant le caractère emporté de la jeune femme, il ne se hasarda pas à l'aborder en face. D'ailleurs, il se sentait gêné vis-à-vis d'elle et quelque audace qu'il eût, il hésitait à parler, sentant bien que les premiers mots qu'il allait lui adresser auraient une importance capitale sur leurs relations à venir. Peut-être eût-il mieux valu s'abstenir encore et laisser le temps consolider le terrain avant de s'y aventurer. Mais Bligny en était venu à ce point de cynique égoïsme de ne pouvoir retarder la satisfaction d'un de ses caprices. Il s'avança donc, parlant à ses amis, faisant de courtes stations auprès des femmes, resserrant, comme un oiseau de proie, les cercles qu'il décrivait autour de Claire. Il était arrivé ainsi près d'elle. Il fit un pas et, se penchant vers la jeune femme, dont il aspira le tiède parfum, « Vous sentez-vous tout à fait bien ce soir ?» lui dit-il d'une voix caressante. « Je viens presque en tremblant vous demander de vos nouvelles, car je crains d'être assez malheureux pour que vous ne me voyez pas m'approcher de vous sans déplaisir. » Claire se retourna vivement et regardant le duc bien en face. « Et pourquoi vous verrai-je avec déplaisir ? » répondit-elle hardiment. « Serais-je venu chez vous si j'avais à votre égard les sentiments que vous m'attribuez ?» Le duc hocha mélancoliquement la tête. « Voilà la première fois que nous avons le loisir de parler librement depuis votre mariage, » reprit-il, « et je vois bien que nous n'allons pas encore dire la vérité. Ce sera une des douleurs de ma vie, m'étant mal conduit envers vous, de ne pouvoir pas vous expliquer les raisons qui peuvent peut-être me faire absoudre. » « Mais vous n'avez pas besoin d'absolution, croyez-moi, » dit Claire avec tranquillité. « Vous ai-je fait des reproches, et croyez-vous vraiment que vous en méritez ? Laissez-moi vous dire que ce serait faire preuve d'une étrange fatuité. » « Vous soulagez ma conscience d'un poids très lourd, » reprit le duc. « Mon mariage a été une des fatales nécessités de l'existence parisienne. Je me suis trouvé un jour dans une telle situation qu'il m'a fallu choisir entre mon bonheur et mon honneur. J'avais deux dettes à acquitter, mais en satisfaisant à l'une, il fallait manquer à l'autre. J'ai sacrifié mon amour pour sauver mon nom. Voilà clair ce qu'il me fallait vous apprendre. » En d'autres termes, M. Moulinet vous a tiré d'une affaire épineuse et vous, par reconnaissance, vous avez épousé sa fille, avec plusieurs millions de dot. Allons, duc, la pénitence est douce, comme dit la chanson. Et de plus, si je vous ai bien compris, vous avez, pour vous soutenir dans cette épreuve, le sentiment du devoir accompli. Vous devez donc être heureux et vous m'en voyez charmé. » Sous l'aiguillon de ces ironiques paroles, le duc tressaillit. « Et vous, dit-il brusquement, êtes-vous heureuse ?»« Vous êtes le seul qui n'ayez pas le droit de me le demander, » riposta fièrement Claire. Au même moment, la duchesse revenait avec Philippe. Le duc, d'un mouvement de tête, montra à la jeune femme son mari au bras d'Athénaïs. Et, voyant Claire se troubler et pâlir, il lui jeta un regard profondément railleur. « Vous méritiez d'être mieux aimé, » dit-il. Et, s'étant incliné, il s'éloigna lentement. Claire frémit à la pensée que le duc avait pu deviner son secret. Ainsi, il mettait en doute le bonheur qu'elle avait voulu affirmer au prix de tant de dissimulations. Elle pressentit quel danger elle aurait à courir si le duc était assez mal inspiré pour s'occuper d'elle. Comment pourrait-elle continuer l'œuvre de la conquête de son mari ? Comment pourrait-elle empêcher son mari de s'émouvoir des poursuites du duc ? Et elle-même, aux prises avec ce dangereux assaillant, comment trouverait-elle la liberté de combattre la duchesse, dont elle voyait déjà l'audacieuse coquetterie en lassant Philippe ? Elle résolut de fuir, et faisant à son mari un signe qui l'amena aussitôt auprès d'elle, elle le pria de faire demander la voiture. Puis, coupant court aux caressantes protestations d'Athénaïs et adressant un froid salut au duc, la jeune femme entraîna Philippe avec autant de précipitation que si le château eût été en flammes. Quand ils furent dans leur coupé, roulant sur la route sonore, dans une nuit transparente et douce, Claire se crut sauvée. Elle ne craignit pas d'interroger Philippe et, se tournant vers lui, « Comment avez-vous trouvé la duchesse ?»« Charmante, » répondit Philippe distraitement. La jeune femme s'enfonça dans son coin avec un geste de dépit que l'obscurité cacha à Philippe. Ce mot seul l'avait frappée, charmante. Elle n'avait pas noté l'accent de profonde indifférence avec lequel il avait été prononcé. « Nous ne retournerons plus à la Varenne, » se dit Claire. « Je souffrirai trop. » Au même moment, Philippe, plongé dans une profonde rêverie, voyait passer devant ses yeux l'élégante figure du duc se courbant devant Claire, et avec un perfide sourire, murmurant à ses oreilles de tendres paroles. Et la gorge sèche, les yeux menaçants, le maître de forge serra ses robustes poings. Ils ne retournèrent point à la Varenne. Ils rendirent à M. Moulinet, au duc et à la duchesse, dans la quinzaine suivante, le dîner qu'ils avaient reçu, et opposèrent des refus persistants aux envahissantes politesses de leurs voisins. Athénaïs, exaspérée, trouva la brette sans entrain et dut trembler sans fantaisie. Elle valsa sans plaisir avec les gentilshommes fermiers de son voisinage. Moulinet prononça vainement au concours horticole de la Varenne, dont il avait réussi à se faire nommer président, un discours qui plongea dans un assoupissement profond ceux des assistants qu'il ne mit pas dans une douce gaieté. Il y eut des feux d'artifice, des joutes à la lance sur la veine, on couronna des rosières, avec accompagnement de fanfares par la lyre de Besançon. on mena la vie gaie, bruyante, fatigante, qu'adorait Athénaïs. Rien ne put la satisfaire. Madame d'Herblay n'était pas là pour recevoir le contre-coup de ses triomphes. La vieille marquise, fixée sur les hauteurs de Beaulieu comme une tourterelle solitaire et plaintive, n'avait pas mis les pieds chez sa nièce par alliance. L'absence de monsieur et de madame d'Herblay commençait à être remarquée. Les commentaires allaient leur train. Et la baronne de Préfond, cette bonne langue, étant arrivée chez Claire, Athénaïs prévoyait le moment où on allait croire à une brouille entre La Varenne et Pont-Aven. Il fallait à tout prix briser la glace qui s'épaississait en menaçante banquise entre les deux jeunes ménages. Un divertissement presque public, auquel serait conviée toute la bonne société du pays, pouvait seul servir de prétexte. Ce fut la Brède qui, sans y mettre de malice, comme tous les hommes inspirés, fournit à la duchesse l'occasion tant cherchée. Il proposa un rallye paper à court dans les bois de La Varenne et de Pont-Aven. On convoquerait les autorités civiles et militaires. Les officiers de la garnison recevraient des invitations et tout le monde suivrait la chasse, soit à cheval, soit en voiture. Un gigantesque lunch serait préparé au rond-point des étangs. En un mot, on donnerait une fête sportive dont il serait parlé jusque dans les journaux de Paris. Peu s'en fallut qu'Athénaïs n'embrassa la Brède pour cette trouvaille de génie. Et, lançant son père en avant pour les invitations, mettant toute la maison à couper des petits papiers, la duchesse alla elle-même à Pont-Aven et revint rayonnante avec une réponse favorable.